surtout sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tension, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Centrafrique.
Salut à tous.
Bienvenue dans la 5e édition de Tension Parasite et Courant Vagabond. C'est lors d'une petite balade sur les crêtes que nous est venue l'idée du thème de cette émission. En regardant l'horizon, ces lumières rouges clignotantes qui s'immiscent de plus en plus dans le paysage nous ont interpellés. Nous sommes donc plongés dans la thématique de l'énergie, en plein essor en ce moment. La politique énergétique actuelle est de construire un réseau d'électricité international, un nouveau maillage de transport d'électricité à l'échelle européenne et pensé par nos gouvernements et les industriels qui sont fiers de brandir leur projet d'autoroute de l'énergie.
Notre territoire n'est pas épargné. C'est même un nœud majeur avec le projet du transformateur de 10 hectares à Saint-Victor-et-Melvieu. Celui-ci, situé sur la ligne très haute tension Aurillac-Carcassonne, sera un point de convergence pour centraliser et redistribuer l'énergie jusqu'en Espagne et même jusqu'au Maroc. En effet, selon les industriels, l'Aveyron est un formidable gisement de vent à exploiter. Ainsi, si ce transformateur se construit, il permettra de renvoyer sur les réseaux l'énergie des éoliennes industrielles, 1 000 000 en prévision pour le territoire. La société RTE, Réseau Transport Énergie, filiale d'EDF, est chargée d'acheminer l'électricité et d'entretenir les lignes en France. C'est donc RTE qui a en charge la construction du transformateur à Saint-Victor, cette même société à laquelle on contribue financièrement chaque mois en payant notre facture d'électricité. Nous avons voulu en savoir plus sur ce projet et cette entreprise. Quelques petites recherches nous ont amenés jusque dans le bocage normand.
Mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rouges blanches chez moi, sur lesquelles tombe la pluie.
Ah, la Normandie. Un si beau pays. Mais ce n'est pas que du bonheur, c'est aussi la région la plus nucléarisée de France. Qui dit production électrique industrielle, dit ligne THT. Et qui dit, vous l'aurez deviné, RTE, Réseau Transport d'Électricité, qui vient d'achever la ligne THT Cotentin-Maine, prévue pour évacuer l'énergie du futur EPR en construction. La mise en place de celle-ci n'a pas été de tout repos pour RTE. En effet, la population non concertée s'est donné les moyens de se faire entendre. Nous sommes allés à leur rencontre. Voici le témoignage d'habitantes fortement impliquées dans la lutte.
Je suis habitante de la Manche, du Nord Cotentin, et voilà, on est en plein dans le nucléaire. On a 5 points très marqués dans le Nord Manche, qui sont Flamanville, l'usine de production, avec 2 réacteurs en fonction, plus l'EPR en construction, on ne sait pas quand il sera fini, mais bon. Avec nombre d'incidents, à noter quand même très important, hein. C'est pas dangereux, mais il y a plein d'accidents tous les jours. On a un centre d'enfouissement de déchets, à Digulville, géré par l'Andra. On a l'arsenal de Cherbourg, où on fabriquait, il y a quelques années encore, les sous-marins nucléaires, mais qui est encore très nucléarisé. Et puis, on a également un point quand même de transfert de déchets qui s'appelle le terminal ferroviaire de Valognes, où tous les déchets nucléaires transitent pour être transférés au centre de retraitement de Beaumont-Hague, le dernier point, la seule usine de retraitement de l'Europe.
Ça me révolte d'être dans le département le plus nucléarisé au monde, donc j'ai envie de réagir, de lutter contre le nucléaire et contre la THT, qui est son prolongement, puisque la ligne qui est en construction, c'est pour permettre à l'EPR de véhiculer son électricité.
Et quand est-ce qu'a démarré le projet de cette ligne THT?
2006, je pense, les premiers débat public, enquête publique, enfin tout est bouclé et décidé à l'avance. Hein. Même quand on propose par exemple 3 tracés, il y en a un qui est déjà surligné, on sait que c'est celui-là qui sera choisi. Alors c'est clair que quand on regarde les territoires, le tracé est bien choisi. Dans ce sens-là, la densité de population, c'est laquelle est la moindre, enfin, qu'il y aura moins de détours à faire. Mais en fait, on ne se préoccupe pas du tout de l'impact sur la santé des animaux et des habitants. Et là-dessus, il n'y a eu aucune étude sérieuse de fait au niveau gouvernemental.
Et comment a été reçu ce projet de ligne THT par les communes concernées ?
Alors, cette ligne traverse 4 départements. La Manche, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Ça faisait 64 communes impactées. 45 communes sur ces 64 se sont opposées à la construction de la ligne. Après la fameuse élaboration du PAP, c'est-à-dire le plan d'accompagnement du projet, de l'argent en fait qui est versé par le gouvernement, mais nous on dit par Areva, hein, Areva, EDF, RTE, tout ce qu'on veut, il ne restait plus que 5 communes à s'opposer à la construction de la ligne THT.
Si les municipalités s'opposaient, on passait outre ou les décisions du maire ou les recours qui étaient intentés auprès des tribunaux, on n'attendait pas les réponses et la ligne se construisait malgré tout. Même si c'était sur un lieu, un territoire, une parcelle où la personne n'avait pas donné son accord et que ça restait donc la propriété de la personne, RTE est rentré en force et a construit ses pylônes.
Avec l'aide des forces de police, hein, parce que ça a été très peu rare enfin, sur cette lutte qu'il y ait des interventions policières qui étaient contre des décisions de justice et contre une forme de légalité. Hein.
Et comment s'est déroulée la lutte contre la ligne THT ?
Il y a eu toute la partie juridique, toute la lutte juridique, hein, intentée par les maires, les propriétaires, enfin les locataires, les cultivateurs,
les associations.
Il y a eu plein d'associations locales qui se sont même fédérées en associations départementales. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la lutte publique, avec des actions publiques, hein, qui a consisté en diverses opérations de déboulonnage public, là où on arrivait à entraîner quand même des locaux, hein, certains locaux. Alors très accompagnés de forces policières, mais au départ c'était très sympa, enfin bref, ils nous encadraient, c'est tout, ils faisaient rien. Et puis peu à peu, c'est monté crescendo. Et...
La pression policière a monté avec le rapprochement des travaux de la commune du Chefrenne, qui a accueilli en fait une assemblée générale qui s'est constituée dans cette lutte-là, des personnes qui voulaient participer à s'organiser contre ça, autour de ces actions publiques, de ces déboulonnages, etc.
Notre action elle s'est faite autour des déboulonnages publics, des blocages de chantiers, occupation de dépôts d'entreprises qui travaillaient sur les chantiers.
On a défendu le bois pendant un moment. En fait, il y a le maire du Chefrenne qui avait un bois, qui a invité les militants à investir le bois et à le défendre. Et ça a duré pendant pratiquement une année. Le Chefrenne était un peu un point névralgique de tension.
Donc on avait construit un petit camp d'occupation dans ce bois pour le protéger de l'arrivée des gendarmes et des gardes mobiles. Et d'ailleurs, un certain jour, ils ont voulu investir le bois et ils ont reculé devant notre présence.
On l'a occupé jusqu'à ce qu'on organise le camp de Montabour, en fait.
Pour symboliser notre lutte, on avait organisé un camp et faire connaître notre lutte anti-nucléaire et anti-THT aux gens du département et de la France. On avait organisé un camp de lutte contre la ligne anti-THT et au cours de ce camp, on a eu une terrible répression policière puisqu'on a eu beaucoup de blessés, dont certains très graves. Et c'est vrai que là, ça a marqué un tournant dans notre lutte parce que on a été en face d'une force qui était trop forte pour nous et trop violente.
Thank you.
l'Assemblée, on est environ 100 à 150 quoi, hein, quand même à se réunir régulièrement. Et jusqu'à présent, c'était donc le bois du Chéfrène et la grange, la Bévinière, c'est-à-dire qui touchait au bois, qui nous servait de lieu de rencontre. On utilisait donc même la salle des fêtes du Chéfrène pour se réunir. Et on avait aussi le château d'eau qui était le symbole de la lutte. Et le château d'eau a été repris par les forces de police. Donc là, le maire a décidé de donner sa démission.
Et quand la ligne devait être construite justement au Chéfrène et notamment à côté des terrains de monsieur le maire du Chéfrène, il a présenté son arrêté au début des travaux qui interdisait que la ligne soit, pour raison de santé, construite trop près des habitations. À moins de 500 mètres, 5 militants ont été arrêtés violemment, alors qu'ils étaient que sur la route en train de donner leur désapprobation. Et le maire présentait son arrêté, comme quoi on ne pouvait pas construire, parce qu'il n'avait pas été annulé par le préfet. Donc ces 5 militants ont été arrêtés violemment et mis en garde à vue une dizaine d'heures. Et c'est vrai que cette arrestation a provoqué une cassure, puisque le maire après a démissionné, enfin tout le conseil municipal a démissionné.
Mais nous, ça nous a renforcés dans la lutte en fait, malgré tout. Plus on se faisait harceler et plus on avait envie de résister, quoi. Enfin vraiment, la résistance a été très forte, c'est vraiment ça. Donc après, on a organisé le camp de Montabeau fin juin, et là, ça a été la boucherie. Et du coup, on n'avait plus d'endroit où se retrouver. Donc, on a été un peu SDF. Donc, on a fait nos AG au gré des endroits où on pouvait. Quoi.
Et comment se manifestait cette présence policière sur le territoire ?
Ben, on avait des contrôles réguliers et très fréquents lorsqu'on allait au village du Chéfrène, les habitants ou les militants. Régulièrement, il y avait des survols d'hélicoptères au-dessus des habitations de personnes qui luttaient contre ces lignes THT.
Il y a eu des intimidations d'habitants aussi, où les flics sont allés voir les habitants en les intimidant, en leur disant qu'il y avait des gens violents qui venaient, des choses comme ça.
En fait, il y avait une ordonnance qui avait été prise qui autorisait les gendarmes à fouiller les véhicules sur des périodes, des plages horaires en fait, 10h.
10h à 18h.
Ils ont quand même été jusqu'à contrôler des personnes âgées 80 ans qui revenaient d'une belote. Ils ont contrôlé la sortie de cette belote et accompagné jusque chez eux.
On a quand même une agricultrice qui a passé des journées, des mois dans le godet de son tracteur ou dans une caravane, attendant de pied ferme l'intervention de RTE sur ses terres. Ben, elle a fini par... ça l'a cassé. Elle a fini par baisser les bras, mais ça l'a cassé. Ça a gâché sa vie, comme elle nous l'a dit il n'y a pas longtemps, en pleurant, quoi, c'est clair. Hein.
Justement, est-ce que le fait que, malgré tout, cette ligne THT se soit construite, toute cette lutte, finalement, est-ce que vous considérez que c'est une défaite ou pas ?
C'en est une, mais c'est qu'une défaite parmi d'autres, il y en a eu d'autres. Mais on ne lutte pas que pour ça, on n'est pas juste des anti-THT non plus. Hein. C'est bien plus profond que ça, je crois. C'est notre vie qui est en cause, c'est nos choix de vie, c'est notre besoin et notre droit à gérer notre lieu de vie, nos envies de vivre. Qu'on arrête quoi, de décider pour nous, pour tout. Mais il faut que les choses reviennent à la dimension des territoires.
Ils vont construire dans le département une troisième ligne THT et on ne va pas non plus l'accepter sans rien faire. Donc de toute façon, on luttera encore pour cette troisième ligne qui va traverser notre département.
On essaie d'être dans une démarche aussi de retransmission des pratiques et de ce qui s'est passé, de comment on peut réagir à ces projets-là qui en fait ressortent toujours des mêmes mécanismes pour se faire imposer. Et il y a eu beaucoup de liens et de contacts qui ont été créés entre des gens qui venaient d'endroits assez différents, enfin autant de Rouen que de Caen, que de Rennes, de la région. Et ce contact-là et ce lien, il reste. Et on a envie de construire des choses aussi ensemble, au-delà.
On construit autre chose.
Quelle bonne idée d'avoir fait du feu, qu'on est bien quand il pleut, avec une bonne discothèque, bien au sec, tous les deux.
Ça clapote sur le toit, dom dom dom, dans la rue, les bons hommes ont l'air de sortir du bain, ou bien de...
Devrions avoir pitié de ceux qui vont éternuer dans leur lit.
Mais le gazon est tout content, les petites fleurs de chanson ravies.
C'est bon de s'aimer sous la pluie, du moment qu'on est à l'abri. C'est bon de s'aimer pour la vie, sous la pluie.
Les escargots, les grenouilles, les canards dans les bois. Dans les mares organisent des meetings. Chez les cygnes on se marre.
Et la pauvre météo, dan dan dan, que le ciel lui pardon. Elle avait prévu un temps et partant, pauvre pomme.
Ah, merci Jo pour cette belle chanson. Nous aussi on aime la Normandie, son bocage et ses zones humides. Suite à cet entretien et pour aller plus loin, nous avons eu envie d'aller questionner l'ancien maire du Chefrenne pour qu'il nous partage ses ressentis et son expérience en tant qu'élu.
Je m'appelle Jean-Claude Bossard, je suis l'ancien maire du Chefrenne. J'avais été élu en 2001, j'ai démissionné en juin 2012 après ma garde à vue.
Vous habitez au Chefrenne, c'est une des 5 communes qui étaient opposées à la construction de la ligne THT.
Oui, enfin des 5 dernières communes, puisqu'on était 45 communes sur les 64 communes impactées par le projet, 45 communes dans un collectif des élus que j'avais créé contre le projet, et on est resté que 5 communes ensuite, parce que RTE est venu avec ses millions d'euros. On a 40 communes qui nous ont quittés pour aller chercher l'argent.
Et pourquoi vous étiez opposé à ce projet de ligne THT ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis et mes conseillers municipaux étaient aussi contre la centrale EPR qui est en construction. On avait pris position, nous, au niveau de la commune, contre l'EPR. Et le même jour, on avait résilié notre contrat EDF. On est allé à NERCOP au niveau de la commune. On a été la première commune de France à Enercop. Et concernant la THT, c'est parce que ça évacue l'électricité nucléaire, d'une part. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est dangereux d'un point de vue sanitaire. Et c'est pas terrible dans notre paysage. Mais le fait que ce soit dangereux en tant qu'élu, je ne pouvais pas l'accepter pour la population.
Quels sont les effets indésirables de la ligne THT ?
Alors, il y en a plusieurs. Le principal, ce qui vient d'être reconnu par le Conseil d'État, c'est le risque accru de leucémie infantile. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé au Chefrenne de plusieurs façons, puisque, pas les leucémies, mais les problèmes. Parce que quand le projet est apparu, on avait pas mal de familles qui étaient malades sur la commune, et les médecins, les spécialistes qui les suivaient, leur ont demandé de déménager, quand ils ont su qu'ils allaient être à proximité d'une ligne très haute tension. Donc le corps médical, lui, il est bien au courant des problèmes. Le Conseil d'État, il est au courant aussi. Enfin, en fait, RTE aussi est au courant. Mais voilà, exactement comme pour l'amiante, on ne veut pas voir le problème et on attend pour gagner de l'argent, peut-être, ou enfin, je ne sais pas quelle raison.
Il y a des éleveurs qui se plaignent des conséquences aussi de la proximité de la ligne THT pour leur profession et pour leur activité.
Oui, bah ça, puisqu'on a malheureusement l'expérience avec une ancienne ligne qui a été montée il y a 30 ans. Et là, on a de nombreux éleveurs qui ont de nombreux problèmes avec les lignes très haute tension, d'autant plus que en Normandie, c'est très humide. Et les courants électriques vagabonds dans le milieu humide se propagent de façon importante. Ça va de la mortalité et du cannibalisme des porcs, qui ont pratiquement tous disparu de la proximité des très hautes tensions. Pour les élevages laitiers, ça commence par un stress des animaux, de nombreuses mammites et un taux de cellules très important dans le lait qui fait que les laiteries ne prennent plus le lait de ces éleveurs-là. Alors, RTE, la solution, quand ça se passe comme ça, ils font signer aux agriculteurs une convention de prise en charge du problème et ils remboursent la perte de l'exploitation à une condition, il y a une clause de confidentialité, l'agriculteur n'a pas le droit de communiquer sur l'argent qu'il reçoit pour compenser ses pertes. Et moi j'ai eu, enfin je peux te faire voir, hein, plusieurs conventions que j'ai. Hein. Et ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Le problème s'est accru aussi du fait de la mise aux normes des bâtiments d'élevage. Parce qu'avant, en tout cas en Normandie, ils étaient en bois et en terre, puis tout d'un coup ils se sont retrouvés en fer. Et là, avec le fer, eh ben, les animaux subissaient beaucoup plus les champs électriques vagabonds qu'auparavant.
Et quand vous dites que les porcs ont disparu, c'est que l'activité a cessé, les éleveurs ils ont arrêté ?
Voilà. Bah, de toute façon, c'est la technique de RTE, hein. C'est de ne pas prendre en compte le problème et de faire le vide autour de la ligne. C'est-à-dire que les éleveurs de porcs, par exemple, même avec une prise en compte de la mortalité, mais ils ne travaillaient pas pour voir leurs porcs crever les uns après les autres. Et donc, ils ont tous été découragés, ils ont tous abandonné. Ce qui permet à RTE de dire « Ah, il n'y a pas de problème avec les porcs, il n'y a plus de problème. » Évidemment, il n'y a plus d'élevage. Et avec les vaches, l'été dernier, on a vu des éleveurs abandonner leur ferme. Parce que là aussi, ils en avaient marre de jeter leur lait, de voir leur petit veau crever, enfin, etc., etc. Et tout ça est très confidentiel. Les chambres d'agriculture sont au courant, mais ne communiquent jamais là-dessus. D'autant plus qu'avec la nouvelle ligne très haute tension, ils ont reçu un énorme chèque. Et syndicats agricoles, enfin, chez nous, dans la Manche, ils ont fait une étude, ils savent combien de paysans ont des problèmes et tout ça, mais évidemment, ils n'ont pas rendu public, hein, tout ça. Mais ça sert de négociation, parce qu'en fait, la ligne coûte 200 millions d'euros. Il y a 100 millions d'euros de mesures d'accompagnement. Avec l'argent, on achète tout et tout le monde. Le problème, c'est que l'argent, on n'a jamais été un médicament.
Quelles ont été les différentes étapes de la lutte contre la ligne THT ?
Dès 2005-2006, on a constitué les associations anti-THT. De mon côté, moi, j'avais créé le collectif des élus. Pour les élus d'abord, mais aussi, ensuite les associations, on a saisi la justice. On a à ce jour plus de 100 procédures judiciaires qui ont été faites. On a pratiquement tout perdu. Mais même quand on a gagné, RTE et le préfet n'en tiennent pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an, la lutte s'est radicalisée, parce que là, on a vu que on ne vivait plus dans une démocratie, et que c'était vraiment une démocratie d'apparence, parce que on a vu que malheureusement, la justice ne faisait pas son travail, que la presse ne faisait pas non plus, que finalement, si on voulait se faire entendre et faire valoir nos droits, il fallait créer un rapport de force. Le rapport de force, on l'a eu. Quand on s'est un peu plus radicalisé sur le Chauffren, depuis le début de l'année 2012, on a vu apparaître 200 à 300 gardes mobiles sur la commune pendant plus de 6 mois. Et arrêter tous les véhicules, fouiller les véhicules, les hélicoptères la nuit, le jour. On était en zone occupée.
Et concrètement, comment est-ce que vous vous êtes radicalisé et quelles actions, modes d'action ont été mis en place ?
Ça a commencé par le château d'eau qui a été loué par la commune à l'association Percy sous tension, qui a servi un peu de totem à la lutte, puisqu'il y avait un grand RTE dégage qui pouvait se voir à des kilomètres à la ronde qui était peint dessus. Ça n'a pas plu du tout ni au préfet, ni aux polices locales, ni à RTE évidemment. C'était loué dans les règles avec un bail à Percy sous tension, donc les forces de l'ordre ne pouvaient rien faire, légalement en tout cas. Et puis ensuite, j'avais un bois qui devait être traversé par la ligne. Et avec les militants, on a décidé de l'occuper jour et nuit pour les empêcher de passer et au moins parler de la lutte. Voilà, ça a servi un peu de lieu de pédagogie de la lutte, puisque la population qui ne s'intéressait pas trop à cette bataille-là, avec l'occupation du bois, a été plus sensibilisé à la lutte et se demandait pourquoi on occupait ce bois, etc. Et ça nous a permis d'expliquer les dangers qu'il y avait autour des lignes, puisque la presse ne le fait pas, etc. Et donc il faut bien trouver des solutions, d'informer la population, d'informer aussi que la justice ne fait pas son travail, que les gendarmes qui sont là normalement pour faire respecter la loi, on l'a vu au Chauffren, sont venus faire respecter l'illégalité en occupant le château d'eau. Ils ont défoncé la porte un beau matin et ils l'ont occupé de façon complètement illégale, sur ordre du préfet, alors que c'était un bâtiment qui était loué dans les règles. Bon, en m'arrêtant, moi, 12 heures, alors que j'étais sur la voie publique, pour réclamer qu'on respecte l'arrêté qu'on avait pris, nous, en 2008, qui demandait à ce que la ligne passe à 500 mètres des maisons et à 300 mètres des bâtiments d'élevage, tant qu'on n'aura pas fait une étude épidémiologique en France. Donc c'est un arrêté qui n'a jamais été cassé par les tribunaux, donc qui était complètement valide. Et donc le 6 juin, quand les travaux ont commencé au Chauffren, j'étais avec mon premier adjoint, puis de nombreux militants, des habitants, à demander à ce qu'on respecte ces arrêtés. Les gardes mobiles sont arrivés, j'aurais demandé de faire leur travail, c'est-à-dire de faire respecter l'arrêté. Au lieu de ça, ils m'ont arrêté et ils ont donné un coup de main à RTE. Ils étaient là uniquement pour, au service de RTE et surtout pas au service de la loi.
Et du coup, l'occupation de du bois, elle a duré combien de temps?
Alors, elle a duré de jour et nuit de mars 2012 à début juillet 2012. En fait, il y a eu le camp de Montabeau qui a eu lieu le 22, 23 et 24 juin, où là, il y a eu beaucoup de casses, 25 blessés. À ce moment-là, je me suis posé la question de continuer le bois, parce que moi, je ne voulais pas avoir la responsabilité de blesser, voire quand j'ai vu la façon dont agissaient les forces de l'ordre, voir un mort pour quelques arbres, hein, parce que en fait moi c'est pas les arbres qui m'intéressaient de sauver, mais c'était plutôt la lutte contre la ligne THT. Et donc quand j'ai vu que ça prenait une dimension de guerre, hein, voilà, j'ai demandé qu'on lève le pied un peu sur le bois, hein, voilà, et j'ai vu qu'ils étaient prêts à tout en face.
Il y a aussi eu des actions publiques d'organiser?
Oui, avec tous les militants, j'en ai assisté, enfin j'ai assisté à quelques-unes, hein. Je me suis fait taper aussi en gendarme, avec mon écharpe d'ailleurs. On allait dévisser moi je dévissais rien, mais j'aidais à ce que ça se fasse, des actions symboliques de déboulonnage de pylônes autour de la commune, là au début des travaux. Mais là aussi, d'une part, la violence des gendarmes est arrivée. D'autre part, il y a eu des arrêtés de prix qui, alors je ne me souviens plus des sommes, je crois que c'était 2000 euros par personne et par heure de présence sur tous les chantiers, etc. Des sommes qui font réfléchir. Et que de toute façon, on a vu qu'ils étaient tellement violents dans ces actions, il n'était pas question de continuer, de se faire taper comme ça et de prendre des risques là aussi. Donc c'est les actions plutôt souterraines qui ont pris le relais.
Et aujourd'hui, les travaux, ils en sont où?
Terminés pratiquement, mais sans respecter la loi évidemment. Donc là, ils ont eu un petit souci au Chefrenne encore, puisqu'il y a trois câbles qui sont tombés malencontreusement. Pendant une semaine, ils étaient presque au sol. Ça a été réparé hier.
Et la ligne devrait être mise en fonction bientôt?
Alors, officiellement, ils l'avaient annoncé fin 2012. Là, ils disent maintenant que ça sera fin avril 2013. Le problème qu'ils ont, c'est que normalement, c'était fait pour évacuer l'électricité de l'EPR et que pour l'instant, l'EPR, il est loin de fonctionner. De toute façon, le problème, lui, il est là. Et on n'a pas la solution. Si on était en démocratie, puisqu'il y a un problème, on dirait, bon, il faut trouver la solution. Donc tant qu'il n'y aura pas de solution, il y aura des problèmes sur les pylônes, je pense. Puisque ça passe dans nos champs, ça ne respecte pas la santé de nos animaux, la santé de nos enfants, enfin, etc., notre santé. Donc ce n'est pas acceptable. Donc le passage en force non plus n'est pas acceptable dans des gens qui disent qu'on est en démocratie. En tant qu'élu, j'ai fait des projets, mais je n'ai jamais fait contre les habitants. Donc s'il y avait un problème, on discutait jusqu'à ce qu'on trouve une solution, mais on n'imposait pas. On n'impose pas un projet par la force.
C'est pour ça que vous avez fait le choix de démissionner?
Oui, parce que je me suis aperçu qu'on n'était pas en démocratie. Donc autant j'étais motivé d'être maire dans une démocratie pour essayer de faire avancer justement la démocratie. Le jour où j'ai constaté qu'on n'était plus en démocratie, j'ai rendu mon écharpe aussitôt.
Il y a un nouveau maire au Chefrenne maintenant?
Oui, c'est une femme. qui travaille à la Banque de France. Je crois qu'elle est habituée à la Banque de France à obéir aux ordres qu'on lui donne d'en haut sans chercher à comprendre. Elle fait exactement la même chose pour la commune. Arrêtez de croire en la démocratie. Il faut qu'on soit tous assez forts pour créer un rapport de force pour qu'on arrête cette politique énergétique. Voilà, quelles sont les solutions? Malheureusement, les solutions, dans ce système-là, il n'y en a pas. Donc la solution, c'est de s'organiser pour lutter d'une autre façon. Hein.
All the time, but when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Little mean little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique. Cette émission de Tension Parasite et Courant Vagabond est consacrée au projet d'autoroute de l'énergie, mené entre autres par RTE, Réseau Transport Énergie. Cette escapade normande où locaux et militants nous ont partagé leur expérience de lutte contre l'implantation d'une ligne THT chez eux se termine. Leur histoire nous enseigne sur les pratiques d'RTE pour imposer ces projets en toute illégalité, sous couvert du préfet à l'aide des forces de l'ordre.
Mais revenons à nos moutons. À Saint-Victor-et-Millevieux, il est prévu la construction d'un transformateur sur des terrains agricoles. Les propriétaires attachés à ces terres refusent de les vendre. Elles sont soutenues par une partie de la population à travers l'asso Plateau Survolté. Nous sommes allés les interviewer pour mieux comprendre les enjeux de ce projet et les conséquences qu'ils impliquent sur tout l'Aveyron.
Le projet, il est présenté depuis 3 ans. Disons que c'est le 7e projet qu'ils nous présentent. Parce qu'au départ, ils avaient commencé sur 10 hectares. Après, ils ont changé de lieu, ils ont changé plusieurs fois. La première fois, on les a empêchés, puisque quand le géomètre est venu pour faire le levé de terrain, on s'est opposé à ceux qui pénètrent sur les terres, donc ils sont repartis chez eux. Après, ils ont changé de lieu, ils sont partis donc chez Marie-Claire. Là, ils nous ont plus rien demandé, quoi. C'est un projet qui est mené par RTE, et ils font ça pour recevoir des énergies renouvelables, quoi, uniquement. Et un raccordement sur la ligne 400 000 qui passe à proximité de leur nouveau projet.
Parce qu'il y a déjà un transformateur qui existe.
Voilà, alors nous avons sur la commune un transformateur qui se situe au Planol et donc qui draine toutes les éoliennes de la région, même là où le Salcuran, l'Estrade, Broquies, le Truel, Aïssen, Castelnau-Périrol. Et actuellement, au Planol, il y a un projet, ils vont changer 2 transformateurs et ils vont en créer un nouveau. Parce qu'ils n'ont apparemment pas suffisamment de stockage. Il y a une ligne de 400 000 et il y a 18 lignes sur la commune. Parce que du fait qu'il y a le poste du panneau, tout se greffe dessus et tout part. Alors ça part sur Castres, dans sa minute, sur Ganges, enfin, Loras, Montahut.
Donc ce projet, il a suivi une concertation. Mais à cette concertation, il y a eu trois phases de concertation. D'abord pour choisir la commune, donc il a été voté que ça serait sur la commune de Saint-Victor, parce qu'au départ, il y avait les Costes-Gozon et Saint-Romne-Tan. Et donc ça a été choisi sur notre commune, donc première concertation. Après, ils ont parlé des sites sur cette commune. Alors à cette concertation étaient invités les politiques, c'est-à-dire les maires des communes, le conseiller général, et puis des représentants de diverses associations de nature, les organismes agricoles, etc. Enfin, tout le monde, sauf les propriétaires, les gens comme nous, voilà, qui n'étions pas du tout convoqués à ces concertations. Alors, ces concertations, tout le monde a approuvé, plus ou moins. Il y a eu quand même quelques réserves de la part de certaines associations au sujet de la nature, tout ça. Mais sinon, ça a été approuvé. Et à la troisième concertation, ils ont choisi le site actuel qui s'appelle La Plaine. Voilà. Et à l'époque où ils l'ont choisi, le projet, il était que chez moi. Et maintenant, nous sommes toutes les deux, Monique et moi, concernées, voilà, actuellement sur ce projet de la Plaine. Alors après la troisième concertation, là, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient moins favorables. Mais ça, ils ont quand même choisi et approuvé ce site de la Plaine. Et là, on a manifesté violemment lors de la troisième concertation. Et c'est parti au ministère, et le ministère a approuvé le projet. Par contre, maintenant, pour déposer le dossier de demande d'utilité publique, il est nécessaire qu'ils affinent maintenant le projet. Donc, pour l'instant, ils veulent étudier le sous-sol, parce que c'est une zone où il peut y avoir des grottes, des avennes, des creux quelconques. Donc, ils ont besoin de savoir comment est le sous-sol. Donc, on en est là. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris.
Oui, l'arrêté a été pris.
Non,
on n'a pas été avisé du tout. Alors que la dernière fois, on avait eu un recommandé comme quoi l'arrêté était bien pris. Mmh. Cette fois, rien. Et il a paru en mairie seulement au mois d'avril.
10 jours
le 26 avril.
Le 26 avril. Voilà. Et nous avons été avisés pour le 6 mai. Qu'il viendrait faire des travaux d'études sur les parcelles. Mmh. Nous, pour notre part, on est tout à fait contre ce projet, donc on a refusé systématiquement qu'ils viennent sur nos parcelles faire des études. Donc Marie-Claire, c'est pareil, et l'association Plateau Survolté est avec nous aussi, donc on est tout le monde est venu sur les lieux pour intervenir et essayer de les repousser le lundi 6 mai. Voilà. Et ils sont repartis. Il y a eu huissier, il y a eu gendarmerie, mais bon, voilà, ils ont constaté, et puis terminé. Mais jusqu'à la prochaine, quoi. Nous étions une centaine. Ça n'a pas été du tout violent. Tout le monde a été là présent. On a fait une chaîne humaine.
Et alors, les actions du plateau survolté, hormis les blocages de RTE quand ils arrivent sur le terrain, quel autre moyen d'action vous avez ?
Comme action, le plateau survolté, ils font paraître beaucoup d'articles dans la presse. Ils contactent d'autres associations. Donc, on est quand même en relation avec des gens qui luttent contre les éoliennes dans la région du sud Aveyron. Ouais. Là, on est quand même connecté aux autres par l'intermédiaire de Plateau Survolté qui essaie de contacter un peu partout et puis qui nous tient bien au courant. Voilà. Donc, ils ont une bonne action pour centraliser, pour se faire connaître. Il y a de l'efficacité, je trouve. Et la preuve, on a fait tomber le projet de 10 hectares à 5 quand même, en se battant comme ça depuis le début.
Et vous organisez aussi un repas ?
Ça, ça devient pratiquement une tradition. C'est parce que ça va faire la quatrième année qu'on le fait. Hein. Les gens viennent nous soutenir. En même temps, il y a des nouveaux adhérents qui se greffent à l'association. Et ça nous permet de faire une petite cagnotte pour besoiner si on va certainement aller
en justice.
Donc, on sera obligé d'avoir des moyens. Donc, de faire face. Hein.
Comment, par rapport à ce projet-là, comment se positionne la mairie et comment s'est positionnée la mairie dès le début du projet ?
Bon, la mairie, maintenant, ils ne veulent pas entendre parler de ça parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont été un peu secoués, il faut le reconnaître. Ils n'ont jamais été clairs, il ne fallait pas, surtout pour en parler du projet, il ne fallait absolument rien dire. Et ça, c'était quand même moche vis-à-vis de la population parce que, normalement, les élus, ils sont là pour informer la population et là, ça n'a pas été du tout le cas. D'ailleurs, on a fait une manifestation quand on a appris le truc devant la mairie qui a été bruyante. Chaque fois qu'il y avait une délibération à prendre au sujet du poste, on a assisté aux réunions, on s'est retrouvés dans une soixantaine. La population est contre. Mais les élus ne nous ont vraiment pas aidés parce que, bon, maintenant, ils disent qu'ils sont neutres.
Peut-être au départ, ils n'ont pas réalisé de l'importance du transfo qui allait se faire. Je crois que c'est ça, au départ. Dès le départ, personne n'a vu que 10 hectares, c'était énorme pour un transformateur et que ça allait avoir des conséquences très lourdes quoi, pour la région.
Parce que vous êtes agricultrice et vous cultivez ces parcelles.
Mais tout à fait, c'est notre moyen de vie, quoi. Enfin, c'est notre outil de travail. C'est l'outil de travail qu'on nous prend. En plus, nous, on a deux enfants qui sont jeunes et qui sont installés. Donc, on leur prend l'outil de travail. Et sur Saint-Victor, il faut quand même savoir qu'il y a très peu de SAU. La SAU, vous savez ce que c'est, la surface agricole utile. Il y en a très peu sur la commune Saint-Victor-en-Velieu. D'ailleurs, on n'est que deux, trois exploitations agricoles sur la commune. Si on nous prend, au départ, c'était ces 10 hectares. Maintenant, aujourd'hui, ils ont rétréci à 5. Mais c'est pour mieux agrandir par la suite. Il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, ça veut dire que ça supprime encore d'autres exploitations. Donc, ça veut dire que
Par la suite, si ce transformateur, puisque c'est lié avec les projets d'éoliennes industrielles, si ce fait, il y aura beaucoup d'éoliennes industrielles qui vont se quiller, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les propriétaires terriens? Bon, certains agriculteurs peut-être diront non, mais d'autres, même propriétaires qui ne sont pas agriculteurs ou même des agriculteurs, vont dire, eh bien, nous, on préfère louer nos terres pour planter des éoliennes, puisque les ADDE ne seront plus en plus du jour.
Ça,
donc, on va préférer louer nos terres pour planter des éoliennes plutôt que favoriser l'agriculture. Et donc, ça va détruire toute l'activité économique agricole du coin.
Oui.
Donc, c'est tout le secteur qui va en dépendre. Et d'autre part, bon, il y a l'agriculture, mais il y a aussi tout le tourisme, l'environnement, enfin tout. Moi, pour moi, la région est fichue. Ils se transforment, ça fait quoi. RTE, nous, la dernière fois qu'ils sont venus, puisque ça fait quand même 3 ans que ça dure, quand ils sont arrivés, moi, je leur ai dit, vous revenez nous voir, et est-ce que vous nous amenez quelque chose de concret? Puisque, bon, ils savent très bien qu'on a 2 enfants qui sont agriculteurs. Vous avez quelque chose de concret à nous proposer? Il me dit, le concret, c'est ça, en me montrant le plan du transfo. Et je dis, mais vous comprenez bien que ça ne nous arrange pas, nous, on ne va pas être d'accord. Jamais de la vie, quoi. Donc, ils n'ont rien, puisqu'en fait, ils sont liés aussi avec la Chambre d'agriculture, il y a une certaine charte qu'ils ont passée entre eux, la Chambre d'agriculture et RTE. Mais la Chambre d'agriculture ne propose rien non plus. Bon, ils ne peuvent pas nous proposer grand-chose, il n'y a pas d'autre terrain.
Et par rapport à ça, j'imagine qu'ils proposent quand même des enveloppes, de l'argent à la commune et aux propriétaires.
À la commune, c'est possible. Nous, jusqu'à maintenant, ils nous ont rien proposé, rien. Ils nous ont dit que, bon, éventuellement, ils nous paieraient ces terrains au prix où la Chambre d'agriculture les estime, c'est-à-dire à 3000 euros l'hectare environ, un truc comme ça. Donc, de toute façon, nous, on est contre. Et puis voilà.
Du coup, vous êtes lancé dans un bras de fer contre RTE et la mairie à la fois et la Chambre d'agriculture.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est dans une très mauvaise position, mais bon, c'est notre position.
Pour l'instant, si on leur laisse rentrer sur le terrain, on est à mon sens, on est fini. S'ils pénètrent une fois, on ne pourra plus faire marche arrière. C'est vrai qu'il ne faut pas leur donner le moindre espoir.
Je leur ai dit depuis le début, et je le répète à chaque fois, je ne leur vendrai pas. Je ne peux pas, je ne me vois pas signer chez un notaire que je me débarrasse de ces terres. Moi, j'y tiens, ça représente mon héritage. C'est nos racines, ouais. C'est mes parents, mes grands-parents qui ont défriché tout ça, c'est tous les gens qui ont travaillé pendant des générations, qui ont apporté chacun, et même ceux qui travaillent actuellement, qui font casser les cailloux, qui donnent de la valeur à ces champs en plus. Vendre ça, c'est trahir nos ancêtres, notre famille, moi je le vois comme
ça depuis le début. Toujours pour l'avenir, pour les gens à venir, mais il faut quand même peut-être penser un peu aux anciens.
On démolit toute une structure, tout un habitat, c'est inadmissible, moi je dis. En plus, on a le poste du planol, c'est là où ça blesse doublement, quoi. On a déjà un truc, et en faire un second, on va se trouver entre deux postes, quoi.
Est-ce que, du coup, de vivre à proximité, ou cette présence du transformateur, ou des lignes de tension qui arrivent déjà, vous constatez des impacts, conséquences?
Déjà, on va perdre l'école. À la rentrée prochaine, il y a un poste qui saute. Ben, les jeunes ne veulent plus venir. Les jeunes qui avaient projeté de construire ici, dès qu'ils ont appris qu'il y avait le projet du poste, ils ont changé de crèmerie, ils s'en vont ailleurs. Hein. On va faire des friches industrielles, quoi. Il n'y aura plus de vie. Hein.
Pour l'instant, moi, on ne parle pas trop des nuisances sur la santé, mais on se pose des questions. Il y a des problèmes de santé dont on se demande si ça ne peut pas être imputé. Bon, on ne peut pas le prouver actuellement, mais je vois que sur les lois européennes, là, ils commencent à revenir un petit peu. Ils ont revu les normes c'était à 100 microtesla, maintenant c'est ramené à 1 autour des points où il y a des enfants, les écoles, les crèches, etc. Donc c'est bien quand même qu'il y a des craintes de gros impacts sur la santé. Et on ne peut pas dire, bon, est-ce qu'on est plus malade qu'ailleurs ici? J'en sais rien, mais bon, on a quand même l'Alzheimer, les cas de problèmes de thyroïde, les acouphènes, etc. Et en plus, actuellement, il semblerait que la ligne 400 000, elle n'est pas chargée à bloc.
Non.
Donc, comme on sait que le rayonnement électromagnétique est proportionnel à l'intensité qui circule, et que quand ils viennent faire des mesures, on ne sait jamais quelle est l'intensité de la ligne, alors que dans tous les postes, ça se sait, quoi. Je veux dire, ceux qui le font circuler le savent. Ils ne veulent pas nous dire combien il y a au moment où on mesure. Donc, c'est des mesures dont on ne sait pas quelle valeur elles ont. Alors, quand la ligne sera chargée à bloc, et qu'elle sera doublée, puisqu'ils vont la doubler, en faire une deuxième sur les mêmes pylônes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme rayonnement? Ça fait peur. Ils reconnaissent maintenant que c'est la grande autoroute d'électricité qui descend en Espagne et qui va passer au Maroc, etc. Alors que jusqu'à présent, moi quand je disais, mais en fait cette ligne quand elle a été construite, elle s'appelait Ruir-Barcelone. Ne me dites pas qu'elle n'est pas continuée jusqu'en Espagne. Alors maintenant ils le reconnaissent et ils disent que c'est normal, maintenant on sera en réseau, toute l'Europe avec l'Afrique, et voilà. Et ils ont changé leur discours.
Comment protéger l'environnement sans nuire à l'économie? Comment participer à l'effort collectif sans renoncer au progrès de la technologie? Pour les pouvoirs publics, l'industrie et les citoyens, cette transition énergétique est un défi. Pour relever ce défi, nous devons nous appuyer sur ce qui nous relie, le réseau de transport d'électricité, les autoroutes de l'énergie. Géré par RTE, une entreprise publique au service de la collectivité. Ce sont 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui connectent les centrales de production aux sites industriels et aux réseaux de distribution.
Face à votre refus, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'expropriation de vos terres?
En septembre, ils m'ont dit oui, puisque vous voulez pas céder, on vous expropriera.
Non, mais disons que nous, le jour où ils sont venus, on était assez révoltés, puisqu'on en était tous les quatre, et si tu veux, on leur a dit d'entrée que bon, de toute façon, on ne vendrait pas. Et que s'il fallait être exproprié, on serait exproprié, qu'on n'avait rien à perdre, quoi. Hein. Donc ils sont restés sur cette position et on n'a pas discuté davantage là-dessus. Les gens prennent conscience dans la région que ce transformateur est bien lié avec les éoliennes industrielles. Et que s'il y a ce transfo, il y aura une multitude d'éoliennes. Mais il faut en prendre conscience aujourd'hui, quoi. Il est temps d'en prendre conscience.
Ce qu'il faut faire de prendre conscience, c'est aux gens de la ville. Ils disent les éoliennes, ça ne nous dérange pas, on ne les voit pas, ni rien. Ouais. Mais par contre, là où il faut les sensibiliser, c'est sur l'histoire des subventions. Parce que l'éolienne coûte trop cher et donc il est subventionné. Et par conséquent, les subventions, c'est quoi? C'est bien l'argent de qui? Des contribuables. Donc, si on ne veut pas que l'électricité augmente, il faut arrêter les éoliennes. Sinon, on va avoir le courant, on va payer 20, 30, 40, 50 fois plus.
Les éoliennes industrielles, on vient d'accord. Oui. Hein.
C'est sûr que s'il y a une mobilisation très forte...
Ah, mais plus il y a du monde, ça en fait peur quand même. Bon. Ils n'aiment pas qu'il y ait du monde. On est le pot de terre contre le pot de fer, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison de lâcher, il faut tenir. Et on pense qu'en les repoussant comme on fait, on arrivera à quelque chose.
Vendredi 26 juillet, sur le stade à Saint-Victor, nous organisons un repas champêtre pour la 4e année. Donc venez nombreux pour nous soutenir. À partir de 18h, il y aura quand même une balade sur le lieu du projet, sur les parcelles qui sont envisagées par RTE. Donc venez découvrir ce lieu magnifique. Et puis un bon repas vous attend après. Et ce sera super. Alors venez nombreux.
Nous prenons note pour ce rendez-vous estival. À ce sujet, mercredi 29 mai à 19h30, des rencontres autour des luttes contre les autoroutes de l'énergie sont prévues, à la ferme de Vispince. Des personnes de la lutte du Chefrenne et de Saint-Victor-Amiévieux viendront témoigner, l'occasion de s'informer. Cette soirée se terminera par un repas partagé.
Pour finir en beauté, nous sommes allés voir du côté des débats nationaux sur l'énergie. Laissons la parole au sympathique président de la Bourse européenne de l'électricité.
La bonne dimension pour l'énergie, c'est clairement l'Europe. Il faut essayer d'optimiser l'existant, le bouquet énergétique existant. Nous n'avons pas de politique énergétique commune. Ce que nous pouvons tenter de faire aujourd'hui, c'est de rendre les interconnexions existantes et leurs capacités utilisées à 100% et de la sorte fluidifier les échanges aux frontières. Au lieu d'avoir une offre et une demande qui sont confrontées au niveau national, elle sera confrontée au niveau des régions connectées, des pays connectés et in fine de l'Europe entière. Nous sommes en train d'essayer de bâtir l'euro de l'électricité en quelque sorte. C'est très important aussi dans la mesure où il faut prendre conscience que nous ne sommes plus dans une illusion d'indépendance énergétique, mais d'interdépendance énergétique. Et à partir du moment où on reconnaît cette réalité-là, l'interdépendance énergétique au niveau européen, il faut la rendre la plus efficace possible. Donc on peut parler d'efficacité énergique, c'est indispensable. Il faut également parler d'efficacité européenne. Cette efficacité européenne, elle passe par des mécanismes de marché, mais pas seulement. Elle passe aussi par des politiques fiscales adaptées, par l'harmonisation, utiliser tous les outils dont nous pouvons disposer pour rendre l'Europe de l'énergie plus efficace.
En s'intéressant au sujet de l'énergie, on s'aperçoit bien vite qu'il est difficile de délier production nucléaire et énergie renouvelable. Les deux se développent conjointement. Pour les gouvernants, l'indépendance énergétique n'est plus d'actualité. Il parle aujourd'hui d'interdépendance à l'échelle européenne, voire continentale. Avec un réseau électrique de cette ampleur, la production devient illimitée. Peu importe les excédents, ils arriveront toujours à s'exporter grâce aux autoroutes de l'énergie. Pensée à cette échelle, la question de l'énergie nous met face à une impossibilité, celle de penser une autonomie énergétique à l'échelle de notre territoire. Ces infrastructures démentielles transforment le monde rural en zone industrielle.
Comme d'hab, une heure ne suffit pas. Nous continuerons donc le mois prochain à creuser cette question. Nous aborderons la problématique des énergies renouvelables, et plus particulièrement des éoliennes industrielles qui poussent ici comme des champignons.
On se retrouve le mois prochain.
Au mois prochain, bye.
Ah bah ouais, je sors plus, hein. Ah bah non, hein. Bah à cause de la recrudescence, hein. Ça a drôlement augmenté la recrudescence, hein. Ah surtout avec les arabes, hein, oui.
Ton sagesse aujourd'hui, c'est à cause de la recrudescence. Suis tout le monde, fait qu'est-ce qu'il y a. Alors elle est belle la France, ton sagesse aujourd'hui, c'est à cause de la recrudescence. Suis tout le monde, fait qu'est-ce qu'il y a. Alors elle est belle la France.
Alors regardez, je fais un 5 ans, il a rien fait de bien grand. Ni offert, ni affaire, il nous laisse comme de ronglons. Puis Raffarin est pas mieux, hein. Soit dit en passant, c'est kiff qui fait haricot. Tout ça c'est du même cajou. Puis leur décentralisation, moi j'en veux pas. Voyez déjà avec Tchernobyl et l'Anatole de Moriora. C'est bien joli de changer les élections en quinquina, mais les années bitextiles, ils y pensent pas, hein.
Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah c'est pour ça, moi la dernière fois j'ai voté contestataire. Au moins lui, tiens ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui l'Europe sera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir des chats. Enfin je fais des plans sur la gourmette parce qu'on en est pas là. Avec tous les coups en France c'est sûr que jamais il passera. Sans lui l'insécurité elle restera dangereuse. Ça la France est pour aider, hein. Puis le fossé se creuse.
Tout ça
hein,
qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah puis regardez-moi tous ces feignants qui sont au chômage et après veulent le droit de vote. J'appelle ça du chantage. Leur ami et la CEDIC, c'est un dos de malheur pour la France. Et c'est pas les Français qui y touchent quand on y pense. Entre nous pour le chômage, c'est la sécurité de l'emploi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas, ils le disent à la télé. Nous on touche le fond de notre pension et ça aide pas d'être bordé de diplôme, hein. Ça non,
tout
hein.
Ça, oh. Ouais,
ça serait mon beau fils, il a.
Alors, elle est belle, la France.
Et il a pas de diplôme, mais quand même, hein. Ah puis on dit l'Europe, l'Europe, mais sont dans les choux à Bruxelles parce que l'Europe ça rapproche les peuples. Qui pareil, mais quand on voit qu'est-ce qui se rapproche entre nous, bah c'est pour les bons, hein. Enfin je dis ça, je dis rien. Non.
Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la
renaissance.
Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Mal que ça en 40, hein, non. Allez, oui, merci, au revoir d'être venu. Oh, j'aime pas. Oh, comprends rien, cette vieille, oh, fatigue. Hein.
Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Do 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 do.